VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Ouagadougou, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Mali, le programme de gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta, approuvé à une large majorité aux petites heures du matin, aujourd'hui à Bamako. Monsieur Keïta a appelé à la cohésion nationale pour sortir de la crise et il demande l'implication de tous et à tous les niveaux pour accomplir cet objectif, selon l'AFP. 116 députés ont voté pour et 16 contre, ces derniers tous des membres de l'opposition. En Côte d'Ivoire, le commandant Anselme Sekayapo, ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame Simone Gbagbo, a plaidé non coupable devant le tribunal militaire d'Abidjan qui le poursuit notamment pour meurtre, assassinat et blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes. Surnommé Sekaseka, le commandant Yapo avait été l'un des piliers de l'appareil sécuritaire du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo. Selon l'AFP, il était hier le dernier accusé, entendu dans le procès ouvert mardi, de 9 officiers pro-Gbagbo jugés pour des exactions commises durant la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait environ 3000 morts. La lutte contre Boko Haram maintenant, le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, prend la tête de la campagne contre la secte islamiste. C'est ce qui ressort du sommet des pays de la coalition anti-Boko Haram hier à Abuja. Les explications d'Antoine Glaser, spécialiste des questions africaines, joint à Paris par Jean-Roger Bion.
Ils veulent toujours avoir la direction, la coordination, le commandement. Et là, on voit qu'il y a une répartition des tâches, en particulier avec le Tchad, à partir du moment où l'état-major de la force régionale sera N'Djamena, mais avec un général qui sera un général nigérian. C'est une façon de se coordonner. Mais tout ça, ça se fait au niveau des chefs, en particulier des présidents et ensuite des chefs d'état-major et autres. Mais est-ce qu'au niveau de la troupe, est-ce que ça va suivre? Ça, on ne sait absolument pas comment les choses vont se coordonner.
Les pays contributeurs avaient souhaité une force dont le commandement est tournant, mais le président nigérien est resté inflexible. Pourquoi, selon vous?
Il y a toujours eu cette attitude du Nigeria anglophone avec 180 millions d'habitants vis-à-vis des petits frères francophones. Buhari, au niveau national, dans un pays aussi nationaliste que le Nigeria, considère qu'ils n'ont pas à recevoir d'ordre, de commandement, de quoi que ce soit des pays voisins. Mais encore une fois, le fait d'avoir accepté que l'état-major soit quand même à N'Djamena, c'est aussi, à mon avis, faire un clin d'œil, ou en tout cas au Tchad, pour remercier le Tchad, quand même, est intervenu le premier contre Boko Haram dans la région, et puis aussi, sans doute, un clin d'œil à la France, qui va sans doute assurer une logistique à partir de N'Djamena, puisque c'est là où l'état-major français de toute l'opération Barkhane dans le Sahel est au Tchad, et donc c'est aussi, à mon avis, le président Buhari, ça lui permettra d'avoir quand même un soutien sur le plan occidental.
Le Tchad, disons, c'est plein du manque de coordination quand le Nigeria dirige les opérations. Qu'est-ce que vous en dites?
Le Tchad, c'est toujours plein le fait qu'il n'y ait jamais eu de coordination avec le Nigeria, mais ça, c'était surtout du temps de Goodluck Jonathan. Je pense que là, ils se rendent bien compte qu'il y a quand même, sans faire de mauvais jeu de mots, il y a quand même le feu au lac. Le véritable danger, c'est vraiment toutes les îles du lac Tchad qui sont complètement incontrôlées. On a vu comment même les populations du Niger ont fui et le véritable enjeu, c'est que Boko Haram finalement s'installe au cœur du lac et à ce moment-là, il sera très difficile avec des populations parce que s'il y a le véritable enjeu économique, c'est quand même le lac Tchad pour l'ensemble des éleveurs et c'est vrai que ça échappe à tous les pays. Alors là, à ce moment-là, c'est pas simplement le Nigeria. Et le Nigeria sait très bien que c'est quand même plus du côté du Tchad et le problème, ça sera vraiment le problème du Tchad et on voit pas comment même le Nigeria peut refuser au Tchad de se coordonner en tout cas sur la lutte contre Boko Haram, là c'est vraiment son territoire.
Le journaliste Antoine Glaser qui vient de publier Africa France, quand les dirigeants africains deviennent maîtres du jeu. Sur le terrain même au Nigeria, 6 villages incendiés, 37 personnes tuées par les militants de Boko Haram mercredi soir dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, près de la forêt de Sambisa, un bastion de la secte. Selon un responsable d'un groupe d'autodéfense, les victimes sont des paysans qui avaient regagné leur village après que l'armée nigériane eut chassé Boko Haram de la région cette année. Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dimanche et lundi prochain à Johannesburg en Afrique du Sud. Son terme officiel, l'année du développement et de l'émancipation des femmes. Mais selon l'AFP, la réunion devrait être dominée par des sujets d'actualité brûlante comme la crise au Burundi, la question des migrants qui risquent leur vie par milliers pour gagner l'Europe, la guerre au Soudan du Sud et les attaques des mouvements islamistes qui menacent plusieurs États depuis le Sahel jusqu'au Kenya. Les États-Unis seront représentés au sommet, entre autres par Linda Thomas-Greenfield, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En République démocratique du Congo, poursuit des consultations en vue d'un dialogue politique. Le président Joseph Kabila s'est notamment entretenu jeudi avec les ambassadeurs et les chefs de missions diplomatiques accrédités en RDC, de même qu'avec des gouverneurs de province. Un coup de projecteur sur ces consultations avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Premier à être reçu ce jeudi 11 juin 2015, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités au Congo démocratique. Jean-Michel Dumont est le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC.
Nous sommes en faveur du dialogue pour trouver une solution aux problèmes concrets qui se posent. Nous les connaissons, ils ont été cités, le calendrier, le fichier, le budget. Le président nous a demandé de jouer un rôle positif et nous avons répondu que nous sommes prêts en tant qu'Union européenne à jouer un rôle positif pour des élections qui soient libres, transparentes, démocratiques, tenues selon les échéances constitutionnelles et dans un climat politique apaisé et que l'Union européenne est prête à apporter son appui au processus électoral.
Cette volonté de la communauté internationale d'accompagner le processus électoral a également été rappelée par Martin Kobler. Mais le chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo souligne tout de même que certains préalables devraient être réunis.
Nous sommes tout à fait prêts d'accorder le plein soutien de la communauté internationale pour les élections. Mais c'est basé naturellement, c'est connu, sur les principes de la résolution des Nations Unies. Et ici, je veux un consensus d'effectuer les élections libres, paisibles et crédibles ici. Donner l'espace à l'opposition. La constitution devrait être respectée et aussi le calendrier électoral doit être gardé menant jusqu'au novembre 2016 les élections présidentielles et législatives. Et j'ai assuré le président du rôle positif de la MONUSCO, du rôle positif aussi de la communauté internationale en ce qui concerne les sujets qui doivent être résolus rapidement.
Ces consultations sont à ce jour toujours boudées par les principaux partis politiques et regroupements de l'opposition. Le député national Christian Badibangi, président de l'Union des socialistes congolais, en a profité pour demander au chef de l'État de fournir encore plus d'efforts afin de ramener les indécis, comme il les appelle, à la table des négociations.
Nous avons dit, nous soutenons le dialogue. Nous avons demandé au chef de l'État d'élargir encore sa main pour que les indécis et les hésitants viennent au nom du Congo pour sauver notre pays.
Au gouverneur des provinces reçu par la suite, il a été demandé d'élargir ses consultations dans leurs juridictions respectives. Julien Paluku, le gouverneur du Nord Kivu, est leur porte-parole.
Le chef de l'État nous a chargé une mission essentielle, celle d'étendre cet exercice en province en tant que ses représentants pour que nous allions consulter toutes les couches en province.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les casques bleus de l'ONU de nouveau accusés d'abus sexuels. Cette fois-ci, les faits se seraient produits au Libéria et en Haïti. Morgane Guiriec.
Le rapport interne de l'ONU indique que les soldats de maintien de la paix ont échangé de l'argent ou des fournitures contre des faveurs sexuelles de la part de centaines de femmes. À Monrovia, plus d'un quart des femmes interrogées disent avoir procédé à des transactions sexuelles avec les casques bleus de l'UNMIL, généralement pour de l'argent ou des téléphones. De même en Haïti, où des centaines de femmes ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec des casques bleus de la MINUSTA en échange de services ou de biens matériels tels que des chaussures, des vêtements, des téléphones, des ordinateurs portables et des parfums. Le document encore confidentiel et daté du 15 mai a été obtenu par l'AFP et doit être publié sous sa forme définitive la semaine prochaine. Ces divulgations interviennent alors que les Nations Unies ont été récemment critiquées pour leur gestion d'accusations d'agressions sexuelles contre des enfants en Centrafrique.
Et pour terminer, actualité aux États-Unis, un adolescent américain a admis hier devant un tribunal qu'il a essayé d'aider le groupe État islamique à recruter recruter des partisans et à lever des fonds. Ali Choukri Amine, 17 ans, risque une peine de 15 ans de détention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.